Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles, les mets en eux le feu de votre amour, envoyez votre Esprit Seigneur et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse et d'une consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il, nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous continuons dans le traité sur le baptême. Donc, nous en sommes à la tertia pars, troisième partie de la somme. Question 67, sur laquelle je vais aller assez vite, qui est une question sans problème. Et ensuite, la question 68, qui est une des questions très importantes de saint Thomas d'Aquin sur le baptême, pour que les choses soient claires. Dans la tête, dans l'esprit, dans l'intelligence de ceux qui m'écoutent. Alors, sur le polycopier, vous avez des textes de saint Thomas à la page 161 suivante. Le polycopier général de la somme théologique de saint Thomas sur le site internet. Alors, voyons rapidement la question 67 qui contient 8 questions, 8 articles, pardon. Donc, je vais aller assez vite parce qu'il n'y a pas de problème particulier dans cette question 67. Article 1, saint Thomas se pose d'abord la question de savoir si c'est au diacre qu'il appartient de baptiser. Alors, saint Thomas va répondre en citant une ordonnance du pape Gelase. Qui rappelle que le diacre doit garder le rang qui lui est propre, qu'il n'ait pas l'audace de baptiser en l'absence de l'évêque ou du prêtre, à moins que ceci étant trop éloigné, une extrême nécessité les y pousse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, c'est au prêtre de baptiser. J'excepte bien sûr les cas d'urgence, j'en ai déjà parlé. Imaginez un enfant qui risque de mourir à la naissance. Bon, l'infirmière peut baptiser, doit baptiser l'enfant. S'il y a vraiment un danger de mort. Mais dans l'état normal, naissance normale, le prêtre doit baptiser et pas le diacre. Cependant, dans certains cas particuliers, le prêtre a le droit de déléguer un diacre pour faire le baptême. Moi, j'avoue que j'ai fait mon premier baptême comme diacre. C'était chez l'abbé Montgomery Wright, qui est mort depuis longtemps. Je ne sais plus pourquoi, il m'avait demandé de faire un baptême et j'étais là, et donc il était à côté de moi pour vérifier que je ne fasse pas de bêtises. C'était mon premier baptême, donc avec l'accord du curé, on peut le faire, mais pas sans son accord. Est-il au prêtre? Est-ce au prêtre ou seulement à l'évêque qu'il appartient de baptiser? Donc en fait, saint Thomas reprend la tradition de l'Église, il appartient au prêtre comme son office propre de baptiser. Certes, un évêque peut aussi baptiser. Je me rappelle un cas très particulier qui m'a d'ailleurs la charité très forte de Mgr Lefebvre. Nous avions, quand j'étais au séminaire, un cuisinier, M. Magnin, je me rappelle, c'est son nom, un Suisse, qui était marié et qui n'avait, pendant longues années, pas pu avoir d'enfant avec son épouse. Et un beau jour, Dieu merci, un enfant est arrivé. Et donc M. Magnin s'était annoncé tout content à son... Mgr Lefebvre, qu'enfin un petit arrivé, un enfant arrivé. Et Mgr Lefebvre, qui voulait marquer sa reconnaissance à l'égard de ce cuisinier qui était très dévoué au séminaire, lui a proposé de faire lui-même le baptême. Et c'est Mgr Lefebvre qui a baptisé ce petit bébé. Donc saint Thomas rappelle que le baptême ne nous donne que le dernier rang dans le peuple chrétien. Sa collation appartient donc au chef subalterne de l'Église qui tient la place des 72 disciples du Christ. Je rappelle que les prêtres sont représentés par les disciples du Christ, alors que les évêques sont représentés par les apôtres. La tradition, j'y viens, c'est une tradition, c'est pas une obligation canonique. Dans les siècles de foi, en général, les baptêmes d'adultes étaient conférés par l'évêque. Les baptêmes d'enfants étaient conférés par les prêtres, simples prêtres. Un laïc peut-il conférer le baptême? Donc je passe vite là-dessus parce qu'on a déjà parlé de tout ça. Pour que l'âme ne risque pas d'être privée d'un moyen aussi nécessaire, il a été établi que la matière du baptême soit une matière commune, l'eau que n'importe qui peut trouver, et que le ministre du baptême soit aussi n'importe quel homme, même s'il n'est pas ordonné, pour que l'impossibilité de recevoir le baptême ne prive pas l'homme du salut. Donc on a déjà expliqué, en cas d'urgence, n'importe qui peut baptiser. Même une femme peut aussi baptiser. Il y a baptême quand, en cas de nécessité, une femme a baptisé un enfant de la Sainte Trinité. D'ailleurs, dans certains cas, il convient que ce soit une femme qui baptise, par exemple, dans les cas de naissance très difficile, il est tout à fait convenable qu'une, par exemple, qu'il y ait un danger de mort pour l'enfant, mais que l'enfant n'est qu'à moitié sorti du corps de la maman. Puis, il est tout à fait normal que, dans ce cas-là, la sage-femme, par exemple, ou l'infirmière, fasse le baptême elle-même, au moins l'ablution, c'est tout ce qu'elle peut faire, elle ne peut pas faire autre chose, et ensuite, si l'enfant ne meurt pas, ce qu'il faut espérer, eh bien, le prêtre va assurer les compléments du baptême à l'Église. Donc, il faut voir, encore une fois, cas par cas. Une femme ne doit pas baptiser si un homme est là, c'est un normal des choses, en cas d'urgence, pas plus qu'un laïc ne peut baptiser en présence d'un clerc, ni un clerc en présence d'un prêtre. Mais il faut voir au cas par cas, il y a certaines règles de bienséance, je dirais, qui font qu'il est plus normal qu'une femme baptise un enfant qui a des problèmes à naître, pour des raisons de bienséance, tout simplement. Il n'est pas normal en soi qu'un prêtre soit baptisé dans ces cas-là. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il est tout à fait conseillé que l'époux, le mari de la maman, assiste à la naissance de son enfant à chaque fois que c'est possible, de telle façon qu'en cas d'urgence, il puisse lui-même faire l'ablution. Ce serait tout à fait normal, puisqu'il est là, il est l'époux, donc il a le droit de s'approcher de son épouse dans ces cas-là. Si cependant une femme baptise en dehors du cas de nécessité, il ne faudrait pas rebaptiser. Elle pécherait cependant, ainsi que ceux qui coopéreraient à ce baptême, soit en recevant d'elle le baptême, soit en présentant quelqu'un à baptiser. Donc j'ai déjà expliqué tout ça, je ne reviens pas. Normalement, un laïc n'a pas à baptiser en dehors d'un cas d'urgence. L'ablution doit être faite par le prêtre au cours des cérémonies complètes du baptême, dans l'état normal des choses. Alors, un non-baptisé peut-il conférer le baptême? Je passe rapidement parce que j'ai déjà expliqué tout ça. Saint Thomas rappelle le principe de philosophie, théologie, personne ne peut donner ce qu'il n'a pas, nemo dat quod non habet. Mais il dit aussi qu'un non-baptisé peut conférer le sacrement de baptême, parce que l'Église a déterminé que les non-baptisés, juifs ou païens, peuvent conférer le sacrement de baptême, pourvu qu'ils le fassent selon la forme de l'Église. Encore une fois, en cas d'urgence. S'il le faisait en dehors de toute nécessité, ils pécheraient tous les deux, le baptiseur et le baptisé, pour un adulte. Et par là, ils empêcheraient l'effet du sacrement, bien que le sacrement lui-même subsiste. Donc, le sacrement reste valide. Cependant, encore une fois, ces baptêmes d'urgence peuvent être opérés par un laïc, en cas d'urgence seulement, avec s'il y a l'impossibilité que le prêtre le fasse lui-même. Alors attention, Saint Thomas rappelle les traditions de l'Église en matière d'administration du baptême. Un seul agent n'exerce qu'une seule action. Donc, il faudrait faire attention qu'un seul ministre doit baptiser. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui verse l'eau et quelqu'un d'autre qui prononce la parole. Les deux doivent être faits par la même personne. Donc, la matière et la forme doivent être appliquées par la même personne. Normalement, il faut aussi des parrains qui reçoivent le baptisé au sortir des fonts. Cependant, en cas d'urgence, il n'est pas nécessaire qu'un parrain soit là. Les prêtres reçoivent le baptisé normalement et le confient à son parrain responsable de son éducation. En fait, il faut préciser que les premiers responsables de l'éducation catholique d'un enfant nouvellement baptisé n'est pas le parrain, mais les parents eux-mêmes. Cependant, si les parents, pour une raison indépendante de leur volonté, ne peuvent pas exercer leur responsabilité, à ce moment-là, le parrain doit entrer dans la chose pour que, justement, il puisse s'occuper de l'éducation catholique du bébé, de l'enfant. Dans la génération charnelle, le nouveau-né a besoin d'une nourrice et d'un éducateur. Aussi dans la génération spirituelle du baptême, faut-il quelqu'un qui assume les fonctions de la nourrice et de l'éducateur pour former celui qui est novice dans la foi et l'instruire des choses de la foi et de la vie chrétienne. Donc d'abord les parents et en cas d'impossibilité, les parrains. Saint Augustin est très clair. Vous, hommes et femmes qui avez reçu des fils au baptême, c'est-à-dire les parrains et les marraines, je vous avertis avant tout d'avoir à vous considérer comme responsable devant Dieu de ceux qu'on vous a vu recevoir au sortir de la fontaine sacrée. Pourtant, attention, c'est du bon sens. Saint Thomas précise, si ces enfants sont élevés parmi des chrétiens catholiques, les parrains peuvent s'estimer libérés de ce soin, en présumant que leurs filleuls sont instruits soigneusement par leurs parents. Mais, si d'une façon ou d'une autre, ils se rendaient compte qu'il n'en est pas ainsi, ils seraient tenus de s'employer de leur mieux au salut de leurs enfants spirituels. Pour cela qu'il faut choisir avec grand soin les parrains, et que les parents doivent faire très attention de choisir comme parrain un catholique pratiquant, de bonnes mœurs. Ainsi, si du bon sens élémentaire, un non-baptisé ne peut pas être parrain. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas la foi puisse surveiller la foi de l'enfant? Donc il ne peut y avoir qu'un seul parrain principal, d'autres cependant peuvent être admis comme auxiliaires. C'est la coutume par exemple d'avoir en général un parrain ou une marraine. Donc l'idéal c'est au moins minimum d'avoir pour un petit garçon un parrain et pour une petite fille une marraine. Cependant en général on accepte les deux, un parrain et une marraine. Question 68, alors là j'ai passé beaucoup plus de temps là-dessus parce que cette question est capitale, justement pour ceux qui reçoivent le baptême. Saint Thomas va donc toucher à certaines questions extrêmement importantes pour savoir si tous les hommes sont tenus de recevoir le baptême, est-ce qu'on peut être sauvé sans le baptême? Surtout ces deux premiers articles de la question 68 de la 13 tertia passe qui sont très importants. Surtout aujourd'hui où il y a beaucoup de confusion chez les fidèles à cause malheureusement d'un groupe de schismatiques qui s'appelle les finéistes qui suivent le père Finet dont j'en ai déjà parlé dans des questions précédentes de la Somme et je voudrais y revenir en citant d'autres textes, entre autres le décret d'excommunication signé par le pape Pie XII en 1953 pour que les choses soient claires parce que malheureusement avant, ces problèmes-là n'existaient, les problèmes des finéistes, donc les finéistes sont des schismatiques, voire même des hérétiques, qui nient l'existence d'un baptême de sang, d'un baptême de désir dans certains cas, et qui prétendent que seul le baptême d'eau est nécessaire pour le baptême, et que donc quelqu'un qui n'a pas un baptême d'eau, ou qui a un simple baptême de désir ou un baptême de sang, ne peut pas être sauvé. Donc ils mettent en enfer tous les martyrs innombrables des premiers siècles de notre Seigneur Jésus-Christ qui ont été baptisés par leur sang, parce qu'ils n'étaient que des catéchumènes. Donc, alors au début, c'était un problème que dans les pays de langue anglaise. Malheureusement, maintenant, en France, ces fausses idées, ces hérésies, se répandent énormément, très vite, par Internet surtout. D'abord par l'existence d'un site dont lequel je vous mets fortement en garde, je crois que ça s'appelle lafoi.fr. Alors le démon est très malin parce que ce site contient beaucoup de choses excellentes, entre autres d'excellentes vidéos sur la vie des saints, sur Notre-Dame de Fatima, etc. Mais le démon est très malin et mélange de façon très, très intelligente des choses excellentes avec des choses complètement fausses. Donc sachez que les finéistes nient complètement l'existence d'un baptême de sang, un baptême de désir. Le démon aussi travaille beaucoup parce qu'il y a des prêtres qui sont, il faut avouer ce qu'il y a, d'excellents prêtres sur bien des plans, qui sont des prêtres traditionnalistes, soit même des prêtres célibacantistes, Mais qui nie le baptême de sang, le baptême de désir. Je pense entre autres à un prêtre qui a beaucoup de qualités humaines, certainement. Je peux donner son nom parce que c'est du domaine public, l'abbé Marchisé, qui est dans le Jura, si mes souvenirs sont exacts, et qui nie le baptême de sang, le baptême de désir. Bon, à ce moment-là, ils se mettent complètement en dehors de l'Église parce qu'ils se coupent de la tradition de l'Église, de 20 siècles de tradition d'Église, 20 siècles de magistère. Alors, ce que je vais faire, bien que j'en ai déjà parlé, je vais revenir sur ces textes du magistère rapidement, parce que j'en ai déjà parlé, cette fois-ci de façon beaucoup plus complète, parce que j'ai retrouvé certains articles qui avaient été écrits par d'autres que moi d'ailleurs, sur ce sujet, et je reprends donc les textes du magistère. Alors, qu'en est-il des textes du magistère? Donc, ce ne sont pas mes opinions personnelles, je n'ai pas d'opinion personnelle sur le sujet. Qu'en est-il des textes du magistère concernant le baptême de sang, le baptême de désir? Il n'y a pas besoin d'aller très loin, il suffit d'aller au droit canonique de l'Église. Texte du droit canon de l'Église, droit canonique catholique bien entendu, donc le texte du droit canonique de 1917 préparé par le pape Saint-Pie X et publié juste par son successeur, Benoît XV. Donc c'est le canon 737 du code des droits canoniques qui dit « Le baptême porte et fondement des autres sacrements est nécessaire de fait ou tout au moins de désir au salut de tous. » C'est clair. Donc il y a des tas d'autres textes, je vous en cite rapidement certains. Un texte très important, je vous l'ai déjà cité mais je le recite pour que les choses soient claires, c'est le catéchisme de Saint-Pie X qui est infaillible. C'est magistère ordinaire de l'Église, attention. Celui qui se trouvant hors de l'Église sans qu'il y ait de sa faute ou de bonne foi aurait reçu le baptême ou en aurait le désir implicite, qui chercherait en outre sincèrement la vérité et accomplirait de son mieux la volonté de Dieu, bien que séparé du corps de l'Église, serait uni à son âme et par suite dans la voie du salut. Donc le catéchisme de Saint-Pie X rappelle l'existence de ce qu'on appelle l'âme de l'Église. L'âme de l'Église, c'est la congrégation de tous ceux qui sont baptisés. Et on peut être baptisé en cas d'urgence par un simple baptême de désir si on n'a pas pu recevoir le baptême d'eau ou un baptême de sang. Donc le baptême de désir ou le baptême de sang sont des baptêmes qui permettent le salut pour ceux qui n'ont pas pu recevoir le baptême d'eau. Il y a une lettre du pape Innocent II qui dit la même chose. Le baptême est administré de façon invisible lorsque ce n'est pas le mépris de la religion mais la barrière de la nécessité qui l'exclut. Donc le catéchisme de Saint-Pie X qu'on poursuit en disant « Le défaut du sacrement de baptême peut être suppléé par le martyr, qu'on appelle baptême de sang, ou par un acte de parfait amour de Dieu, de contrition jointe au désir au moins implicite du baptême, et ceci s'appelle le baptême de désir. » Donc voilà l'enseignement infaillible de l'Église. Donc c'est tout réglé. Le pape IX, en 1863, c'est l'encyclique « Quanto confitiamo meror » donc il précise « Dieu qui voit parfaitement, scrute et connaît les esprits, les âmes, les pensées, les habitudes de tous, ne permet pas dans sa souveraine bonté et clémence que celui qui n'est pas coupable de faute volontaire soit puni par les supplices éternels. » Il y a un exemple intéressant dans une lettre de l'évêque de Metz, du 28 août 1206, lettre A à l'évêque de Metz, du pape Innocent III. Alors, j'ai trouvé ce texte dans un bon résumé qui avait été fait par M. Saglio sur le baptême de désir. Voilà ce texte du pape Innocent III. Vous m'avez confié qu'un certain juif à l'article de la mort et vivant parmi les juifs seulement s'était plongé lui-même dans l'eau en disant « Je me baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Or, vous me demandez si ce juif qui persévère dans la foi chrétienne doit être baptisé. Nous répondons qu'étant donné qu'il doit y avoir distinction entre celui qui baptise et celui qui est baptisé, comme le montre à l'évidence cette parole du Seigneur disant aux apôtres « Baptisez toutes les nations du Père, du Fils et du Saint-Esprit », le juif dont il est question doit être baptisé à nouveau par un autre pour qu'il apparaisse qu'autre est celui qui est baptisé, autre celui qui baptise. Cependant, s'il était décidé aussitôt, après ce baptême qui s'est conféré lui-même, il aurait rejoint immédiatement la patrie en raison de sa foi au sacrement, même si ce n'avait pas été en raison du sacrement de la foi. Alors, je voudrais vous lire le décret du Saint-Office excommuniant le père Léonard Finet, donc qui est à la base de cette secte des finéistes, jésuites. Donc, c'est un décret qui date du 13 février 1953. Pour ceux qui veulent les preuves, vous avez le texte latin dans les actes du magistère de l'Église. C'est l'acte, les actes du tome numéro 45, en 1953, à la page 100. Voilà ce texte, je vais vous lire, il est un peu long, mais je voudrais vous lire pour que les choses soient claires, parce que à chaque fois qu'on parle de ce baptême, de l'existence d'un baptême de sang, de baptême de désir, tous les finéistes de France et de Navarre nous tombent dessus en disant qu'on n'a pas le droit de dire ça. Voilà le texte du magistère de l'Église, et ça c'est Pie XII. Pape Pie XII, je m'excuse, mais le pape Pie XII est un pape légitime, et nous avons à suivre ses décrets. Et dans un cas comme ça, ce sont des décrets qui sont, attention, comme ça touche à la foi, aux mœurs, c'est un décret qui relève de l'infaillibilité. Voilà le décret, 13 février 1953, donc du pape Pie XII, par l'intermédiaire du Saint-Office. Il y a quelques années, un groupe d'étudiants et d'étudiantes de l'université de Harvard se réunissait régulièrement au centre d'accueil Saint-Benoît à Boston, dans le Massachusetts, aux États-Unis, dont l'aumônier était le père Léonard Finet, jésuite. Trois professeurs laïcs furent exclus du collège des pères jésuites par décision du recteur parce que professant sur la thèse « Hors de l'Église, pas de salut » des doctrines erronées. Mais bientôt après, le père Finet prenait fait et cause pour ses professeurs et il les intégrait dans le corps professoral de son centre et se rebellait ainsi contre son supérieur. L'archevêque de Boston, son Excellence Mgr Cushing, se voyait obligé de condamner le père Finet et de lui enlever à partir du 1er janvier 1949 les pouvoirs d'entendre les confessions. Une lettre de Saint-Office dénonçait l'hérésie du père Finet, mais celle-ci ne fut pas rendue publique au moment de sa publication en août 1949. Donc voilà le texte de cette lettre. Cette suprême sacrée congrégation a suivi très attentivement le commencement et le cours de la sérieuse controverse soulevée par certains associés du Saint-Bénédict Saint-Terre et du Boston College concernant l'interprétation de la maxime « Hors de l'Église, point de salut ». Après avoir examiné tous les documents nécessaires ou utiles sur ce sujet, entre autres les dossiers envoyés par votre chancellerie, les recours et rapports où les associés du Saint-Bénédict Saint-Terre exposent leurs opinions et leurs réclamations, et en outre beaucoup d'autres documents se rapportant à cette controverse recueillie par vos officiels, la Sacrée Congrégation a acquis la certitude que cette malheureuse question a été soulevée parce que le principe « hors de l'Église, point de salut » n'a pas été bien compris ni examiné et que la controverse est envenimée par ce suite d'un sérieux manquement à la discipline provenant du fait que certains membres des associations mentionnées ont refusé respect et obéissance aux autorités légitimes. En conséquence, les éminentissimes et révérendissimes cardinaux de notre suprême congrégation ont décrété en session plénière le 27 juillet, mercredi 1949, et le souverain pontife en l'audience du jeudi suivant, 28 juillet 1949, c'est le pape Pie XII, a daigné approuver l'envoi des explications doctrinales de l'invitation des exhortations suivantes. Nous sommes obligés, par la foi catholique et catholique, la foi divine et catholique, à croire toutes les choses que contiennent la parole de Dieu, écriture ou tradition, et que l'Église propose à la fois comme divinement solennelle, mais encore par son magistère ordinaire et universel. Or, parmi les choses que l'Église a toujours prêchées et ne cessera d'enseigner, ne cessera pas d'enseigner, il y a aussi cette déclaration infaillible où il est dit qu'il n'y a pas de salut hors de l'Église. Cependant, ce dogme doit s'entendre dans le sens que lui attribue l'Église elle-même. Le Sauveur, en effet, a confié l'explication des choses contenues dans le dépôt de la foi, non pas au jugement privé, mais à l'enseignement de l'autorité ecclésiastique. Or, en premier lieu, l'Église enseigne qu'en cette matière, il existe un mandat très strict de Jésus-Christ, car il a chargé explicitement ses apôtres d'enseigner à toutes les nations d'observer toutes les choses qu'il avait lui-même ordonnées. Le moindre de ces commandements n'est pas celui qui nous ordonne de nous incorporer par le baptême au corps mystique du Christ qui est l'Église et de rester unis avec lui, avec son vicaire par qui lui-même gouverne ici-bas son Église de façon visible. C'est pourquoi nul ne se fera si, sachant que l'Église est d'institution divine par le Christ, il refuse malgré cela de se soumettre à elle ou se sépare de l'obédience du pontife romain vicaire du Christ sur la terre. Non seulement notre Sauveur a-t-il ordonné que tous les peuples entrent dans l'Église, il a aussi décrété que c'est là un moyen de salut sans lequel nul ne peut entrer dans le royaume éternel de la gloire. C'est évident qu'ici, le pape agit en tant que vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ pour garder le dépôt de la foi. N'oublions pas que nous sommes sous le pape Pilous qui est pape légitime. Évidemment, cela ne s'applique pas à l'égard de quelqu'un qui prétend être pape et qui ne l'est pas parce qu'il s'est se coupe de ce que l'Église catholique a toujours enseigné et qui n'enseigne plus le dépôt de la foi. Dans son infinie miséricorde, Dieu a voulu que, puisqu'il s'agissait des moyens de salut ordonnés à la fin ultime de l'homme, non par nécessité intrinsèque mais seulement par institution divine, leurs effets salutaires puissent également être obtenus dans certaines circonstances lorsque ces moyens sont seulement objets de désir ou de souhait. Ce point est clairement établi au Concile de Trente aussi bien à propos du sacrement de baptême qu'à propos de la pénitence. Il faut en dire autant, à son plan, de l'Église en tant que moyen général de salut. C'est pourquoi, pour qu'une personne obtienne son salut éternel, il n'est pas toujours requis qu'elle soit de fait incorporée à l'Église à titre de membre, mais il lui faut être unie tout au moins par désir ou par souhait. Ce qu'on appelle l'âme de l'Église. L'âme de l'Église, je vous le répète, c'est la congrégation de tous ceux qui vivent en état de grâce, donc qui a la vertu de charité. Bon. Cependant, il n'est pas toujours nécessaire que ce souhait soit explicite, comme dans le cas des catéchumènes. Lorsque quelqu'un est dans une ignorance invincible, Dieu accepte un désir implicite, ainsi appelé parce qu'il est inclus dans la bonne disposition de l'âme par laquelle on désire conformer sa volonté à celle de Dieu. Ces choses sont clairement expliquées dans la lettre dogmatique publiée par le souverain pontife Pie XII le 29 juin 1943 sur le corps mystique du Christ. Dans cette lettre, le souverain pontife distingue clairement ceux qui sont actuellement incorporés à l'Église comme membres et ceux qui sont unis par le désir seulement. Parlant des membres qui forment ici-bas le corps mystique, le même auguste pontife, le pape Pie XII, dit « Seuls font partie des membres de l'Église ceux qui ont reçu le baptême de régénération et professent la vraie foi, et qui, d'autre part, ne sont pas, pour leur malheur, séparés de l'ensemble du corps ou n'en ont pas été retranchés pour des fautes très graves par l'autorité légitime. » C'est l'encyclique Mystici Corporis Christi du pape Pie XII. Vers la fin de la même encyclique, invitant à l'unité avec la plus grande affection, ceux qui n'appartiennent pas au corps de l'Église catholique, il mentionne ceux qui, par un certain désir et souhait inconscient, se trouve ordonné au corps mystique du Rédempteur. Il ne les exclut aucunement du salut éternel, mais il affirme par ailleurs qu'ils se trouvent dans un état où nul ne peut être sûr de son salut éternel, et même qu'ils sont privés de tant de si grands secours et faveurs célestes dont on ne peut jouir que dans l'Église catholique. Par ces paroles, le pape condamne aussi bien ceux qui excluent du salut éternel les hommes qui ne sont unis à l'Église que par le désir impossible, que ceux qui affirment erronément que tous les hommes peuvent se sauver à titre égal dans toutes les religions. Cependant, il ne faudrait pas croire que n'importe quelle sorte de désir d'entrer dans l'Église suffise pour le salut. Le désir par lequel quelqu'un adhère à l'Église doit être animé de charité parfaite. Un désir implicite ne peut pas non plus produire son effet si l'on ne possède pas la foi surnaturelle, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il rémunère, ceux qui le cherchent. Le Concile de Trente déclare « La foi est le principe du salut de l'homme, le fondement et la racine de toute justification. Sans elle, il est impossible de plaire à Dieu et de compter parmi ses enfants. » Il est évident, d'après ce qui précède, que les idées proposées par le périodique From the Housetop, qui est le périodique définéiste aux États-Unis, comme l'enseignement authentique de l'Église catholique, sont loin de l'être et sont très dangereuses, aussi bien pour ceux qui sont dans l'Église que pour ceux qui vivent en dehors d'elle. De cet exposé doctrinal découlent certaines conclusions touchant à la discipline et à la conduite que ne peuvent méconnaître ceux qui défendent avec vigueur la nécessité d'appartenir à la véritable Église et de se soumettre à l'autorité du pontife romain et des évêques que l'Esprit-Saint a désigné pour gouverner son Église. C'est pourquoi il est inexplicable que le Saint Benedict Center puisse prétendre être un groupe catholique et désirer être considéré comme tel et qu'en même temps il ne se conforme pas aux prescriptions des canons du Code de droit canonique et continue d'être une cause de discorde et de révolte contre l'autorité ecclésiastique et de trouble pour beaucoup de consciences. En outre, il est difficile de comprendre qu'un membre d'un institut religieux, le Père Finet, se présente comme défenseur de la foi et qu'en même temps il n'hésite pas à attaquer l'enseignement donné par les autorités légitimes et ne craigne même pas d'encourir les graves sanctions dont le menacent les sacrés canons pour les violations graves de ses devoirs de religieux, de prêtre et de simple membre de l'Église. Enfin, il n'est pas prudent de tolérer que certains catholiques revendiquent pour eux-mêmes le droit de publier un périodique dont l'intention est d'exposer les doctrines théologiques sans la permission de l'autorité ecclésiastique compétente que l'on appelle imprimatur et qui est prescrite par les sacrés canons. Ceux donc qui s'exposent au grave danger de s'opposer à l'Église doivent méditer sérieusement qu'une fois que Rome a parlé, ils ne peuvent passer outre même pour des raisons de bonne foi. Leur lien à l'Église et leur devoir d'obéissance sont certainement plus stricts que pour ceux qui adhèrent à elle seulement par un désir inconscient. Qu'ils comprennent qu'ils sont les enfants de l'Église, affectueusement soutenus par elle avec le lait de la doctrine et des sacrements, et que, après avoir entendu la voix de leur mère, ils ne peuvent donc pas être excusés d'ignorance coupable. Qu'ils comprennent que le principe suivant s'applique à eux sans restriction, la soumission à l'Église catholique et au souverain pontife est nécessaire au salut. Bon, il est évident qu'ici, le pape parle de la soumission à l'Église catholique et au vrai pape. On ne parle pas d'un hérétique qui prétend être pape et qui ne l'est plus parce qu'il s'est coupé complètement de ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Je reprends le texte du pape Pie XII. Ce document a été rendu public donc le 4 septembre 1952. Le père Finet, au lieu de se soumettre, se révolta davantage et commença une campagne de violence contre les autorités religieuses. Le 25 octobre 1952, le père Finet fut mandé à Rome, mais il refusa de s'y rendre. Après un dernier avertissement, il fut excommunié. Il continue à couper le sang de Saint-Benoît, Saint-Bénédicte Saint-Terre, et à une centaine d'adeptes qui, au milieu de leurs prières, lancent des invectives aux autorités religieuses. Il se nomme esclave du cœur immaculé de Barry. Comme le prêtre Léonard Finet, résident à Boston, Saint-Bénédicte Saint-Terre, lequel à cause du grave refus d'obéissance à l'autorité ecclésiastique avait déjà été suspendu à Divinis, nonobstant les avertissements réitérés de l'instance menace d'excommunication à encourir ipso facto, n'est pas venu à récipiscence, les éminentissimes et révérendissimes pères proposés à la sauvegarde de la foi et des mœurs, dans la séance plénière du mercredi 4 février 1953, l'ont déclaré excommunié avec tous les effets du droit. Et le jeudi 12 février 1953, sa sainteté Pie XII, pape par la providence de Dieu, a approuvé, confirmé le décret des éminentissimes pères et ordonné qu'il fût rendu public. Je crois que c'est clair. Les choses doivent être comprises dans ce sens. Et encore une fois, c'est à l'Église et à l'Église seule qu'il faut donner le droit d'interpréter justement et d'expliquer les points délicats de la doctrine catholique. Donc le défaut du sacrement de baptême peut être suppléé par le martyr, on appelle baptême de sang, ou par un acte de parfait amour de Dieu, de contrition, joie au désir, au moins implicite du baptême, et ceci s'appelle baptême de désir. Donc soit un baptême de désir implicite, soit un baptême de désir explicite. Baptême de désir explicite, c'est le cas du catéchumène qui se prépare au baptême. Baptême de désir implicite, c'est quelqu'un qui, ne connaissant rien à l'Église catholique sans sa faute, a néanmoins le désir de faire la volonté de Dieu, et donc, il peut avoir un baptême de désir implicite. C'est évident que seul Dieu peut savoir qui vraiment a un baptême de désir, il peut avoir un baptême de désir implicite. Oui, seul Dieu peut savoir qui a vraiment un baptême de désir implicite. Dieu qui voit parfaitement, scrute, connaît les esprits, les âmes, les pensées, les habitudes de tous. Il ne permet pas dans sa souveraine bonté et clémence que celui qui n'est pas coupable de faute volontaire soit puni par les supplices éternels. On a déjà cité ce texte. Donc, je rappelle, c'est un petit peu la conclusion de ce passage. Doués qu'ils sont de l'usage de la raison, le désir et la résolution de recevoir le baptême, joint au repentir d'avoir mal vécu, suffisent dans ces cas-là pour arriver à la grâce de la justification. Si quelque accident soudain venait empêcher ces personnes de se purifier dans les eaux salutaires. Donc, il est évident, que les choses soient claires, que quelqu'un qui peut recevoir le baptême d'eau doit recevoir le baptême d'eau. Il ne faut pas dire, ah moi j'ai un baptême de désir, j'ai le désir du baptême, donc je ne me préoccupe pas de recevoir le baptême d'eau. Non, le baptême de désir n'est acceptable qu'en remplacement du baptême d'eau qu'en cas d'impossibilité de recevoir le baptême d'eau. Je vais terminer par quelques exemples connus de saints canonisés par l'Église. Je vous rappelle que les canonisations dans l'Église catholique sont infaillibles et qui n'étaient pas baptisés avec un baptême d'eau. Le martyrologe romain, donc publié par l'ordre du pape Grégoire XIII, revu par l'autorité d'Urbain VIII, de Clément X, augmenté et corrigé en 1749 par le pape Benoît XIV, dans l'édition de 1959. Donc, voilà ce que dit ce martyrologe romain. À Rome, sainte émérencienne, vierge et martyre. Encore catéchumène, elle fut lapidée par les païens tandis qu'elle priait au tombeau de sainte Agnès dont elle avait été la sœur de Lé. Ça fait tout au mois de janvier. À Braga, autre exemple, en Portugal, saint Victor, martyr. N'étant encore que catéchumène, il refusa d'adorer les idoles, confessa le Christ Jésus avec une fermeté inébranlable et après beaucoup de tourments, eut la tête tranchée, méritant ainsi d'être baptisé dans son propre sang. À Alexandrie, autre exemple, dans la même persécution de Sévère, les saints martyrs Plutarque, Sérène, Héraclide, catéchumène, Héron, néophyte, et un autre Sérène avec les saintes femmes Raïde, catéchumène, Potamienne, vierge, et Marcel, sa mère. Entre ces saints brilla d'un plus grand éclat la vierge Potamienne, qui, ayant soutenu de fréquents et de rudes combats pour sa virginité, endura par la foi les tourments inouïs, fut enfin brûlée avec sa mère. Donc les catéchumènes qui sont morts non baptisés sont assimilables aux baptisés parce qu'ils ont un véritable baptême de sang, ce qui est un acte de contrition parfaite. En fait, tout simplement, le baptême de sang et le baptême de désir sont des actes de contrition parfaite. L'Église catholique enseigne qu'un acte de contrition parfaite efface tous les péchés, y compris le péché originel, pour quelqu'un qui l'a. Alors, une fois que ces choses sont claires, je pense avoir été assez clair, donc relisez éventuellement tous ces textes, réécoutez-les sur Internet, pour être sûr que les choses, encore une fois, soient claires dans ce domaine. Donc, l'existence du baptême de sang, du baptême de désir, c'est clairement, infailliblement enseigné par l'Église, et donc ça touche à la foi catholique. Donc quelqu'un qui nie l'existence d'un baptême de sang, d'un baptême de désir, dans les cas très particuliers explicités par l'Église, est tout simplement un hérétique, hors dehors de l'Église. Il se met en dehors de l'Église parce qu'il refuse de se soumettre à ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Alors, venons maintenant au texte de saint Thomas d'Aquin. Vous verrez que saint Thomas dit exactement la même chose. Donc, c'est la question 68 de saint Thomas d'Aquin. Tertia pars, ceux qui reçoivent le baptême. Donc saint Thomas se pose la question de savoir si tous les hommes sont tenus de recevoir le baptême. Donc voilà sa réponse. Donc il cite saint Jean, chapitre 3, verset 5. Si l'on ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous croyons donc qu'il n'y a pas de chemin de salut en dehors du baptême. Nous croyons qu'il n'y a de chemin de salut que pour les baptisés. Et nul ne peut trouver le salut que par le Christ. Donc tous sont tenus au baptême. Sans lui, il ne saurait y avoir de salut pour les hommes. Donc voilà le texte de saint Thomas. Il est clair. Jamais les hommes ne purent être sauvés, même avant la venue du Christ, ils devenaient membres du Christ. Car il n'y a aucun autre nom qui n'ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Avant la venue du Christ, les hommes étaient incorporés au Christ par la foi à sa future venue, foi dont le sceau était la circoncision, pour les hommes et puis pour les femmes, toutes les cérémonies de purification qui existaient dans l'Ancien Testament. Donc, ils étaient sauvés par la foi au Christ à venir. Depuis la venue du Christ, c'est encore par la foi que les hommes sont incorporés au Christ, bien que le sacrement de baptême lui-même n'ait pas toujours été nécessaire au salut, puisqu'il n'était pas nécessaire avant l'existence du baptême, avant l'institution du baptême par notre Seigneur Jésus-Christ. La tradition dit que notre Seigneur a institué le baptême, je vous l'ai déjà expliqué, au moment où il a été lui-même baptisé dans les eaux du Jourdain par Saint Jean-Baptiste. Bien que le sacrement de baptême lui-même n'ait pas toujours été nécessaire au salut, la foi dont le baptême est le sacrement a toujours été indispensable. Personne ne peut être sauvé sans la charité, et la charité peut exister sans la foi. Donc pour être sauvé, il faut être en état de grâce. Toute personne qui est en état de grâce au moment de la mort est sûre d'être sauvée. Et si elle a l'état de grâce, ça veut dire qu'elle a la charité. Si elle a la charité, ça veut dire qu'elle a la foi. Personne ne peut avoir la charité nécessaire, véritable, sans la foi. Personne ne peut avoir donc l'état de grâce, ne peut être en état de grâce sans la foi. Est-il possible pour quelqu'un qui n'est pas baptisé avec un baptême d'eau, mais qui a un baptême de désir ou un baptême de sang, d'être en état de grâce? Oui, parce qu'il a, il meurt dans un acte de charité parfaite, et donc ses péchés sont détruits. Les péchés actuels et les péchés personnels, et aussi le péché de nature, le péché originel. Passons à l'article 2, qui est aussi très important, de la question 68. Peut-on être sauvé sans le baptême? Donc, saint Thomas, vous verrez, reprend toute la tradition de l'Église, avec des textes très connus, très importants, qu'il faut vraiment méditer. Celui-là, sans avoir reçu de fait le baptême, peut parvenir au salut à cause du désir du baptême qui procède de la foi qui agit par la charité, et par laquelle Dieu, dont la puissance n'est pas liée au sacrement visible, sanctifie intérieurement l'homme. Saint Ambroise, dit-il de Valentinien, qui mourut catéchumène, « Celui que j'avais régénéré, je l'ai perdu, et lui n'a pas perdu la grâce qu'il avait demandée. » Valentinien était l'empereur au temps de Saint Ambroise, qui est mort à la guerre, alors qu'il était préparé par Saint Ambroise au baptême. Il était catéchumène, donc il avait un baptême de désir implicite. « Si, dit Saint Thomas, un catéchumène a le désir du baptême, autrement il ne mourrait pas dans les bonnes œuvres, qui ne peuvent exister sans la foi qui agit par la charité, et si ce catéchumène vient à mourir, il ne parvient pas aussitôt à la vie éternelle, mais il subira la peine de ses péchés passés. » Donc, il sera sauvé par son baptême de sang ou un baptême de désir. On a déjà expliqué tout ça. Alors, le baptême doit-il être retardé? Article 3, la question 68, là je vais aller un peu plus vite parce que c'est plus facile. Donc, saint Thomas va distinguer entre ceux qui ont l'usage de la raison et ceux qui ne l'ont pas. Donc, distinguer entre les enfants, les bébés, et les adultes. Dans le cas des bébés, des enfants, il ne faut pas différer le baptême. D'abord, parce qu'il n'y a pas à attendre chez eux une instruction plus avancée ou une conversion plus complète. Ensuite, à cause du danger de mort, puisque pour eux, il n'y a pas d'autre remède que le sacrement de baptême. Donc, on baptise systématiquement les bébés, dans le cas de bébés provenant de familles catholiques. C'est-à-dire qu'on est sûr que l'enfant va recevoir une éducation catholique. Quant aux adultes, alors d'abord, une petite note que j'ai oubliée, importante. Je vous l'ai déjà dit, mais je répète parce qu'il faut que les choses soient claires, qu'il faut répéter les choses 70 fois avant que ça rentre dans les ménages. Je rappelle que on n'a pas le droit de baptiser un enfant, un bébé, sans l'accord des parents, hors du cas de danger de mort. Donc une infirmière, même si elle de bonne foi, n'a pas le droit de baptiser un enfant sous prétexte que l'enfant soit baptisé. Donc, si l'enfant ne vient pas d'une famille catholique, on n'a pas le droit de baptiser l'enfant. Sauf cas de danger de mort, où dans ce cas-là, le salut de l'enfant prime tout le reste, et là, on peut baptiser, même en cachette des parents, un bébé qui est en train de mourir, même s'il vient d'une famille non catholique. Quant aux adultes, ils peuvent avoir le secours du seul baptême de désir, comme nous l'avons dit auparavant. Par conséquent, il ne faut pas leur conférer le sacrement dès la conversion, mais il faut leur imposer un certain délai. Je vous ai déjà expliqué que ce délai est pratiqué, entre autres, avec les conversions d'adultes. Moi-même, quand j'ai par exemple, après une première retraite, ou des gens que je connais peu, qui font la retraite, qui demandent le baptême, ou des gens qui, avant la retraite, viennent me voir en disant, monsieur l'abbé, je demande le baptême, j'exige en général la retraite dans ce cas-là, et dès que j'ai l'assurance de la persévérance, je peux baptiser. Mais on ne baptise pas un adulte sans une certaine période de probation. C'est surtout très important dans les milieux païens, en Afrique entre autres, parce qu'il faut que ces païens perdent toute une série de mauvaises habitudes qu'ils ont, entre autres l'habitude de la polygamie, pour prouver qu'ils peuvent être baptisés et qu'ils vont, en tant que baptisés, suivre la doctrine catholique de l'Église, sur le mariage entre autres. Donc ce délai qui est demandé aux adultes peut être supprimé pour deux raisons, dit saint Thomas d'Aquin. D'abord, ceux qui doivent être baptisés, si ceux qui doivent être baptisés paraissent parfaitement instruits dans la foi et aptes au baptême. Saint Thomas cite l'exemple de saint Philippe qui baptise immédiatement l'eunuque et saint Pierre Corneille et ses compagnons. On trouve ça dans les Actes des Apôtres. Ensuite, en cas de danger de mort, de maladie, parce que là, il faut pas faire attendre les gens s'il y a un véritable danger de mort. Ceux, dit pape Léon II, ceux qui pressent, que presse le danger de mort, la maladie, un siège, la persécution, le naufrage, doivent être baptisés en tout temps. Donc, si durant le délai prescrit, les catéchumènes tombent gravement malades et courent quelques dangers, il est évident qu'il faut les baptiser. Article 4 de la question 68, faut-il baptiser les pécheurs ? Donc, saint Thomas répond clairement, à cause de la souillure d'une faute passée, je reprends le texte de saint Thomas. On peut être pécheur de deux façons. D'abord, à cause de la souillure d'une faute passée. À ceux qui sont pécheurs en ce sens, il faut conférer le baptême qui a été institué précisément pour nous purifier de la souillure du péché. Mais on peut aussi être pécheur par la volonté de pécher et le propos de demeurer dans le péché. À ceux qui sont pécheurs en ce sens, il ne faut pas conférer le baptême. Il est évident que quelqu'un qui vit dans le concubinage, par exemple, qui vit en concubinage, qui ne veut pas régulariser sa situation, qui en même temps demande le baptême, ne peut pas être baptisé parce qu'il n'a aucune intention de sortir de l'état de péché dans lequel il est. Mais il est évident que quelqu'un même qui a une vie de passé très pécamineuse, qui a vécu dans le péché pendant des années et des années, qui demande le baptême, alors qu'il est païen, qui demande le baptême et qui donne toutes les preuves qu'il a changé de vie, qui ne vit plus dans le péché, doit être baptisé s'il a suffisamment de doctrine, s'il connaît suffisamment son catéchisme. Donc le baptême, conclusion de saint Thomas, le baptême doit être administré à celui qui présente quelques signes de conversion intérieure. S'il n'y a pas de signe de conversion intérieure, il ne faut pas baptiser la personne. Faut-il imposer des œuvres satisfactoires aux pécheurs qu'on a baptisés ? Donc c'est l'article 5 de la question 68 de la Tertia Pars. Donc saint Thomas répond ainsi, à celui qui est baptisé, quelles que soient ses fautes, on ne doit imposer aucune satisfaction, car ce serait faire injure à la passion et à la mort du Christ, comme si elle ne suffisait pas à satisfaire pleinement pour les péchés des baptisés. Lorsqu'un adulte est baptisé, tous ses péchés disparaissent. Quand un bébé est baptisé, tous ses péchés disparaissent. Le bébé, il n'a comme péché sur la conscience que le péché de nature, à savoir le péché originel, qui disparaît. Quand un adulte est baptisé, il n'a pas simplement un païen adulte, il n'a pas simplement le péché originel, mais il a aussi tous les péchés actuels. Donc dans ses péchés actuels, il faut qu'il les regrette. S'il regrette ses péchés actuels, tous les péchés mortels qu'il a commis dans sa vie, qu'il prend les moyens de ne plus les recommencer, qu'il essaie de vivre comme un catholique, eh bien, il faut baptiser. Et le baptême efface non seulement tous les péchés, le péché originel et les péchés actuels, les péchés personnels, mais en plus, le baptême efface la peine temporelle due au péché. C'est-à-dire efface toutes les peines du purgatoire. Rappelez-vous le texte d'Isaïe, en parlant du Christ, du Messie, il a vraiment porté nos maladies et s'est chargé de nos iniquités. Donc, puisque toutes les peines temporelles du péché, des péchés pardonnés sont effacées, il n'y a plus de peine du purgatoire à payer, si vous voulez. Et donc, quelqu'un, un adulte qui est baptisé, ou un enfant qui est baptisé, qui meurt juste après le baptême, va directement au paradis. Même un adulte, attention. Un adulte qui est baptisé et qui meurt dans un accident de voiture en rentrant chez lui après le baptême, va directement au ciel. Il ne passe pas par le purgatoire. Alors, article 6 de la question 68, la confession des péchés est-elle requise ? C'est évident et qu'il parle ici des adultes, baptême d'adultes. Voilà ce qu'il dit, ceux qui vont être baptisés ne doivent donc pas confesser leurs péchés. Ce n'est pas nécessaire puisque tous les péchés vont être détruits par le baptême. Bon, on peut, à la demande de la catéchumène, il a le droit de faire cela, moi je le fais régulièrement quand on me le demande, un adulte catéchumène qui se prépare au baptême, qui va être baptisé, peut avoir le droit de faire ce qu'on appelle une confession de dévotion. Moi je le fais parfois pendant les retraites pour quelqu'un qui le demande. C'est-à-dire avant d'être baptisé, il fait l'accusation au confessionnal de tous ses péchés, mais il ne reçoit pas l'absolution puisqu'il ne peut pas encore la recevoir, puisqu'il n'est pas encore baptisé. Donc ce qu'on appelle une dévotion, une confession de dévotion. Il peut la faire s'il veut, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Il y a deux façons, dit saint Thomas, de confesser ses péchés. L'une est intérieure et s'adresse à Dieu. Celle-là est requise avant le baptême. L'autre confession est extérieure et se fait au prêtre. Celle-là n'est pas requise avant le baptême. Si par dévotion, certains voulaient confesser leurs péchés, il faudrait entendre leur confession. Encore une fois, ça c'est le texte de saint Thomas, c'est ce qu'on appelle une confession de dévotion. Mais pas pour leur imposer une pénitence, mais pour leur donner, contre leur faute coutumière, une formation à la vie spirituelle. Certaines personnes tiennent à faire, moi j'ai rencontré plusieurs cas d'adultes qui voulaient absolument faire une confession de dévotion avant de recevoir le baptême, pour s'humilier, tout simplement. Ils voulaient s'humilier avant le baptême. Souvent au cours des retraites, il me disait, monsieur l'abbé, tout le monde, tous les catholiques qui ont fait la retraite avec moi ont accusé tous leurs péchés. Moi, je tiens aussi à accuser mes péchés, même si je ne peux pas encore recevoir l'absolution parce que je ne suis pas encore baptisé, je tiens à accuser mes péchés pour m'humilier et me préparer ainsi plus facilement à recevoir cette grâce du baptême. Et donc, juste avant le baptême, je recevais la confession sans donner l'absolution, bien entendu, parce qu'il n'était pas encore baptisé, il ne pouvait pas la recevoir. Article 7, l'intention est-elle requise chez le baptisé ? Donc saint Thomas répond en disant qu'il est requis du baptisé qu'il ait la volonté ou l'intention de recevoir le sacrement. Ça, bien sûr, ça regarde le baptême d'adulte, pas le baptême d'un bébé qui ne peut pas avoir d'intention personnelle puisqu'il n'a pas encore l'usage de sa volonté. Donc, à tel point, dit saint Thomas, que si un adulte n'avait pas eu l'intention de recevoir le sacrement, qu'il avait reçu sans avoir l'intention, il faudrait le rebaptiser. Article 8, la foi était requise chez le baptisé. Là, encore une fois, il parle évidemment du cas des baptêmes d'adultes. Saint Thomas explique qu'il y a ce qui est nécessaire à la réception de la grâce, effet ultime du sacrement. Dans ce sens, la foi est nécessaire pour le baptême. Il y a d'autre part ce qui est requis nécessairement pour l'impression du caractère baptismal. Et à ce titre, la foi du baptisé n'est pas requise nécessairement pour le baptême. Pas plus que la foi de celui qui baptise, pourvu que soient remplies les autres conditions nécessaires au sacrement. Déjà expliqué. Car le sacrement n'est pas l'œuvre de la justice de l'homme, ni de celui qui le donne, ni de celui qui le reçoit, mais il est l'œuvre de la toute-puissance de Dieu. Donc, l'intention de l'Église est de baptiser, dit saint Thomas, les hommes pour les purifier de leurs péchés. Aussi, l'Église ne veut, pour ce qui est d'elle, donner le baptême qu'à ceux qui ont la vraie foi, sans laquelle il n'y a pas de rémission des péchés. Donc, on ne peut pas baptiser un adulte qui refuserait, par exemple, la foi à certains articles de la foi catholique. Donc, si quelqu'un reçoit le baptême en dehors de l'Église et sans avoir la vraie foi, le sacrement n'est pas utile à son salut. Alors. De même, précise saint Thomas, qu'il ne faut pas conférer le sacrement de baptême à celui qui ne veut pas sortir de ses autres péchés, de même en va-t-il de celui qui ne veut pas abandonner l'infidélité. Pourtant, si on le leur confère, l'un et l'autre reçoivent le sacrement, mais sans profit pour leur salut. C'est-à-dire que si quelqu'un reçoit le baptême en état de péché, par exemple péché contre la foi, c'est le cas de, cité par saint Thomas, attention, du moment qu'il a l'intention de recevoir le baptême est valide, s'il y a la matière, la forme et l'intention. Parce que l'intention, c'est l'intention de celui qui baptise. Donc, la matière, si la matière est là, l'eau, la forme est là, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même si le pécheur qui reçoit le baptême ne veut pas sortir de son péché, le baptême reste valide dans un cas comme ça, mais c'est un baptême, un sacrement reçu avec un obèque, c'est-à-dire avec un empêchement, et donc la grâce du sacrement de baptême n'est pas donnée. Le caractère est donné, mais pas la grâce. Article 9. Faut-il baptiser les enfants ? Donc saint Thomas pose cette question qui était très importante au Moyen-Âge, où il y avait encore beaucoup de gens, c'était des habitudes qui venaient des premiers temps de l'Église, où on ne baptisait pas encore les bébés, on ne baptisait que les adultes. Et saint Thomas donc rappelle la tradition de l'Église, il est nécessaire de baptiser les enfants puisqu'à leur naissance, ils encourent par Adam leur condamnation, il faut qu'en renaissant, ils reçoivent le Christ. Ils reçoivent du Christ leur salut. Donc il faut baptiser les enfants le plus tôt possible. Et pas attendre. J'ai déjà expliqué tout ça. Pourquoi ? Parce que quant à la bonne conscience, l'enfant l'acquiert en lui-même, non pas encore en acte, mais en habitus, par la grâce sanctifiante. Donc il ne peut pas encore réciter un acte de volonté. C'est pour ça que les parents et les parrains prennent responsabilité pour l'enfant. Article 10. Faut-il baptiser les enfants des Juifs malgré leurs parents ? Voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Personne ne doit être amené à la foi par violence. Ce n'est pas malgré eux qu'il faut les sauver, mais de leur plein gré pour que reste entière la forme de la justice. Donc, attention, on n'a pas le droit, encore une fois, de baptiser un bébé sans avoir une certitude morale que le bébé va recevoir, en tant qu'enfant, plus tard, une éducation catholique. Sauf, j'ai déjà expliqué, en cas de danger de mort. En cas de danger de mort, on peut baptiser un enfant, un bébé, même de parents très anticatholiques, du moment qu'on a une certitude morale que l'enfant va mourir et qu'il vaut bien sûr beaucoup mieux assurer le salut de l'enfant dans ce cas-là. Mais s'il n'y a pas cette urgence, on n'a pas le droit. Une infirmière catholique n'a donc pas le droit de baptiser un enfant sans l'accord des parents. Et un prêtre n'a pas le droit de faire un baptême sans s'assurer que l'enfant va recevoir une éducation catholique. Article 11 de la question 68. Peut-on baptiser les enfants qui sont encore dans le sein de leur mère ? On appelle un baptême intra-utero. Donc, saint Thomas cite saint Augustin, personne ne peut renaître qui ne soit né d'abord. Donc, le baptême étant une renaissance spirituelle, on ne peut donc baptiser quelqu'un avant qu'il sorte du sein maternel. Bon. Sauf cas très particulier d'enfants qui sont en train de mourir dans le sein maternel. Quand on peut le faire, ce qui n'est pas toujours possible, quand on peut le faire, mais il faut essayer de baptiser à l'intérieur de l'utérus. Il est évident que ce genre de baptême ne peut être fait, cette ablution ne peut être faite que par quelqu'un ayant une connaissance médicale, soit le médecin, soit dans certains cas l'infirmière ou la sage-femme. Bon. Il est nécessaire au baptême que le corps du baptisé soit en quelque sorte lavé dans l'eau, puisque le baptême est une ablution. Mais le corps d'un enfant, dit saint Thomas, avant qu'il sorte du sein maternel, ne peut en aucune façon être lavé dans l'eau. Cela ne peut se faire, d'abord parce que l'âme de l'enfant, que le baptême est destiné à sanctifier, est distincte de l'âme de la mère. Donc, il peut y avoir des cas d'accouchement très difficile. Entre autres quand il y a une détresse respiratoire, une détresse cardiaque du petit bébé. Donc, eh bien, il faut essayer de baptiser dans un cas d'urgence comme cela est évident. C'est le cas entre autres pour les baptêmes par césarienne quand il y a vraiment un risque pour la mort de l'enfant. Il faut que le médecin, surtout chez les catholiques, baptise immédiatement, à la demande des parents, bien entendu, le bébé, s'il y a des grosses difficultés, s'il y a encore une fois un risque de mort pour l'enfant, le médecin, la sage-femme peut même baptiser l'enfant sans l'accord des parents, s'il y a risque de mort, risque sérieux de mort. Article 12, peut-on baptiser les fous et les démons? Alors, saint Thomas d'Aquin explique que oui, parce que les fous et les démons, ils ont une âme à sauver comme tout le monde. Donc, on doit donc quelquefois donner le baptême à ceux qui n'ont pas l'usage de la raison. Bon, c'est le cas des enfants, des bébés, qui n'ont pas encore l'usage de la raison. Et c'est même le cas de quelqu'un qui n'aura jamais l'usage de la raison pour une raison physique. Et donc, on peut baptiser ces personnes-là. Donc, on pourrait baptiser quelqu'un qui n'a pas l'usage de son intelligence parce que pour une malformation quelconque intellectuelle, eh bien, il ne peut pas exercer l'usage de sa raison. Un enfant, un adulte qui va rester bébé toute sa vie pour des raisons médicales très graves parce que il n'a pas eu de développement normal dans son cerveau, par exemple. Mais attention, il a une âme. Hein. Et donc, puisqu'il a une âme, on doit baptiser cette âme. Ouais. On le fait aussi même avec des personnes qui ont complètement perdu l'usage de la raison, des fous par exemple, surtout s'ils peuvent avoir des périodes de lucidité. À ce moment, il faut utiliser une période de lucidité pour baptiser cette personne, surtout quand cette personne a demandé le baptême. Voilà, nous avons terminé avec cette question très importante, question 68. La prochaine fois, si Dieu veut, nous avancerons donc pour peut-être terminer sans doute le sacrement de baptême, le traité de saint Thomas sur le baptême. Questions 69, 70 et 71 que nous commencerons, si Dieu veut, la prochaine fois. Nous terminons par une petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.